autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, amis auditeurs, pour nous raccrocher aux arbres aujourd'hui, en nous demandant pourquoi ces géants immobiles semblent nous faire signe de tous côtés. Multiplication des découvertes scientifiques sur la communication des arbres, mais aussi des ouvrages consacrés à leur vie secrète et à leur influence bénéfique sur nous autres humains, qui les avons depuis trop longtemps oubliés, négligés. Pourquoi renouer aujourd'hui avec les arbres ? En quoi pourraient-ils nous inspirer une autre manière d'être et d'habiter le monde sans tomber dans l'anthropomorphisme, notre invité, l'écologue Jacques Tassin, nous propose de retrouver le chemin des arbres et du sensible dans son dernier ouvrage auquel nous avons emprunté le titre de cette émission autour de la question « Pourquoi penser comme un arbre ?» Bienvenue. Bonjour Jacques Tassin.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour poursuivre cette réflexion, cette interrogation sur les arbres en particulier et le règne végétal en général que vous menez, Jacques Tassin, au travers de vos recherches et de vos ouvrages. Vous êtes chercheur en écologie végétale au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, auteur de plusieurs ouvrages sur le lien entre l'homme et les végétaux et les plantes. Votre dernier essai aux éditions Odile Jacob s'intitule « Penser comme un arbre ». Je vous signale, amis auditeurs, que nous avons d'ailleurs un exemplaire de cet ouvrage à vous faire gagner pour penser comme un arbre, l'arbre comme source d'inspiration pour nous autres humains. Je vous cite Jacques Tassin, primate irrévérencieux, dites-vous, aujourd'hui perdu au bord du chemin pour avoir sottement oublié que nous vivons sur la planète des arbres. Nous vivons sur la planète des arbres, Jacques Tassin, ça c'est un fait.
C'est un fait que ce sont les arbres qui, très longtemps, ont polarisé le monde et son évolution, ont façonné l'atmosphère, continuent de la façonner, continuent de façonner les sols, régulent tous les excès, tempèrent finalement le monde, et nous faisons partie de ce monde, donc nous-mêmes, nous avons été et nous continuent, sans forcément en avoir vraiment conscience, à être façonnés, polarisés, et finalement aspirés peut-être, pas assez, mais en tout cas en partie par les arbres.
Alors les arbres, ils peuplent notre imaginaire évidemment, mais ils sont aussi à l'intérieur de nous, hein, nos embranchements pulmonaires et autres arborescences, jusqu'à nos arborescences informatiques d'ailleurs à l'extérieur, mais on est effectivement façonné.
Alors ça, disons que c'est un petit peu autre chose. La figure de l'arborescence est une des grandes figures du vivant. Et effectivement, on retrouve, disons, dans toutes les formes d'écoulement, puisque l'arbre, c'est aussi une forme d'écoulement, c'est aussi une forme de fluidité. On retrouve cette arborescence qu'on a, effectivement, dans nos réseaux pulmonaires, lymphatiques, sanguins, etc.
Que devons-nous aux arbres ? C'est le titre de votre premier chapitre, où vous nous rappelez que nous avons été arboricoles déjà à l'origine. Donc on doit effectivement, non seulement notre Terre, notre planète, mais nous-mêmes, notre évolution.
Bien entendu. Ça fait 65 millions d'années que ça dure. Comment peut-on oublier cela, quoi ? Ça fait seulement 300 000 ans que l'homme a quitté la fréquentation quotidienne des arbres. Ça représente 5 millièmes seulement de son évolution. On a l'habitude aujourd'hui...
On a été plus longtemps dans les arbres que par terre.
Incommensurablement, tout à fait. Et on a l'habitude de sectionner le vivant entre espèces plutôt que de les penser dans leur continuité. Et nous sommes encore ce que nous avons été, évidemment. Nous avons en nous cette mémoire, mais plus que cette mémoire, finalement, ce façonnement, cette sculpture opérée par les arbres pendant tous ces millions d'années. Et notre première matrice, c'est la forêt en réalité. Et c'est au contact quotidien, pendant tous ces millions d'années, que notre corps a été moulé au contact des arbres. Nos mains ont été... Là, c'est le meilleur exemple, ont été entièrement façonnés par le fait de les toucher 24 heures sur 24 quasiment, en tenant les branches pour se déplacer, en cueillant des feuilles, en cueillant des fruits, etc. La forme de notre visage, avec les yeux qui se sont déplacés vers l'avant, est liée à la fréquentation des arbres, ce qui a compromis notre odorat, a laissé notre ouïe tranquille. Notre régime alimentaire est lié aussi au contact des arbres. En fait, on nous dit omnivores, mais nous sommes des arborivores, dans le sens où ce que l'on sait le mieux consommer et digérer, ce qui nous réussit le mieux, c'est toute la nourriture qu'on peut trouver dans les arbres.
Les fruits des arbres, évidemment. Voilà. Et pourquoi l'avons-nous oublié? Parce qu'aujourd'hui, on s'en rend compte, de nombreuses études scientifiques le montrent aussi, ça nous fait du bien. Ça fait du bien aux jeunes enfants, ça s'est prouvé. Ça fait du bien d'être au milieu des arbres. C'est quoi? C'est notre élément? Oui, c'est notre élément.
C'est notre élément premier. Notre corps, bon, je vais mettre ça entre guillemets, mais notre corps s'en souvient. En tout cas, puisque notre corps en vient, notre corps ne peut pas oublier ce que nous, dans notre mental, avons oublié. Et effectivement, tout un tas d'études totalement avérées, qui n'ont rien de loufoque, ont montré que la concentration chez les enfants était meilleure au contact des arbres, dans des environnements arborés, que notre stress s'apaisait. Il y a même des chercheurs américains qui ont montré que dans des villes où il y avait un taux, une qualité paysagère avec suffisamment d'arbres, les taux de criminalité étaient plus faibles. Donc vous voyez, ça va très loin.
Les arbres nous apaisent, les arbres nous font du bien, mais aussi, alors aujourd'hui on le retrouve, jusqu'à parfois des extrêmes, on va y revenir, parce que parfois on a l'impression que les arbres vont nous sauver de tout, ce qui n'est pas non plus avéré, et pas
bien
du
entendu.
Tout. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a oublié si longtemps? Pourquoi est-ce qu'on a cru finalement qu'on pouvait s'en passer des arbres? Et surtout que quand on envisageait le vivant, pendant longtemps, on pensait à nous, on pensait aux animaux, nous qui sommes aussi des animaux d'ailleurs, mais on avait complètement oublié le règne végétal, les plantes, les arbres... Alors que c'est vraiment du vivant.
Tout à fait. Alors on peut n'émettre que des hypothèses, mais disons que depuis Démocrite, 5 siècles avant Jésus-Christ, il s'est toujours agi de dissocier le sensible du conceptuel. Et on est parti, avec les Grecs, dans une vision très conceptuelle, qui même est devenue mécaniste, de l'ensemble du monde, et y compris du vivant. Et donc, chassant ce sensible, on a chassé la perception immédiate du vivant. Et donc, on a chassé la perception immédiate des arbres. Il se trouve qu'actuellement, il semble que nous y revenions.
Nous revenons au sensible, nous revenons auprès des arbres. Voilà pourquoi vous avez choisi d'écouter la chanson de Brassens. Auprès de mon arbre, vous propose sur RFI d'écouter sa reprise par Renaud, Auprès de mon arbre.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligot. Mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai des pipes d'écume, ornées de fleurons. De ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant. D'avec ma femme, j'ai foutu le camp. parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne, Valencelle-là, qui bien sûr laissait beaucoup, trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux.
Auprès de mon arbre, toujours d'actualité, Jacques Tassin, la chanson de Brassens reprise par Renaud.
Ça montre que les poètes ont de belles intuitions qui ne contreviennent pas du tout aux travaux des scientifiques, puisque ce que je viens de vous évoquer tout à l'heure, c'est, ça va en faveur d'un retour vers les arbres, essayer de retrouver cette voie d'inspiration.
Retour vers les arbres, retour vers le sensible, oui.
Tout à fait. Et les poètes le perçoivent eux-mêmes.
Vous citez aussi, alors là c'est pas un poète, c'est un ethnologue, André-Georges Audricourt, qui disait, mais au fond, si c'était les autres êtres vivants qui avaient éduqué les hommes, oh, je trouve ça très joli, oui. C'était les arbres qui les avaient un peu éduqués.
C'est joli et c'est très intéressant.
Et oui.
Y a des découvertes récentes qui montrent que la médication... que nous savons pratiquer, que les peuples premiers savent pratiquer eux-mêmes, viendrait vraisemblablement de l'observation d'autres primates. Toujours, il y a toujours derrière finalement cette ambiance
ethnobotaniste. Hein.
Voilà, il y a cette ambiance forestière, hein, qui dit primate dit forêt. Des singes ethnobotanistes qui eux-mêmes, sans doute par expérimentation successive, ou peut-être qu'ils ont eux-mêmes imité autre chose, hein, puisqu'il y a des oiseaux aussi qui peuvent pratiquer l'automédication. Donc c'est en imitant probablement certains remèdes qu'utilisent ces primates, que les hommes eux-mêmes ont utilisé ces mêmes remèdes. Et il y a des remèdes qu'on trouve à la fois, il y a une plante par exemple, Vernonia amygdalina, qu'on trouve dans le bassin forestier du Congo, dont les qualités vermifuges sont utilisées à la fois par les bonobos et par tous les peuples bantous qui sont présents dans cette zone.
Donc comment s'inspirer des autres, voilà pourquoi, et comment penser comme un arbre, hein, c'est autour de cette question que nous tournons aujourd'hui. Les arbres, quand on les observe, il y a autre chose. Donc nous vivons sur la planète des arbres, déjà ça il faut s'en rappeler, s'en rendre compte, le regarder. Et les arbres, ils ont une capacité à grandir, à croître, ils ont une croissance infinie, Jacques Tassin. Ça, c'est hallucinant.
Oui. Alors d'abord, pour revenir à la planète des arbres, effectivement, la biomasse représentée par les arbres, c'est 99% de la biomasse totale. Donc ça nous rappelle
99% de la biomasse, voilà. C'est vraiment la planète des arbres.
Mais tout à fait. Et les étrangers, ce sont nous en réalité. C'est à nous de nous accommoder, aux arbres. Disant cela, j'ai perdu le fil de votre question.
Ma question, elle portait sur la croissance infinie,
oui,
des arbres.
Fait.
Donc la planète des arbres, voilà. C'est eux qui occupent le terrain, hein,
oui.
On va dire comme ça.
Oui.
Et ils sont capables de croître infiniment, indéfiniment.
Voilà, autant les animaux que nous sommes sont circonscrits par finalement un plan défini. Qui se réalise, y compris pendant notre embryogenèse, où nous sommes même retournés sur nous-mêmes, donc nous sommes vraiment centrés sur nous-mêmes, condamnés à l'être sur nous-mêmes, par notre développement. Les arbres, eux, les plantes, n'ont pas de développement embryonnaire, et finalement ne cessent de s'ouvrir, suivent un autre chemin de réalisation, de croissance, qui est une ouverture. Nous refermons sur nous-mêmes, malheureusement, fort malheureusement. Les plantes, et donc les arbres, enfin les très belles figures des plantes que sont les arbres, ne cessent de s'ouvrir et de croître indéfiniment, puisque à l'extrémité de leurs bourgeons se trouvent des massifs embryonnaires, qu'on appelle massifs méristématiques, qui sont des sortes de fontaines de jouvence qui, elles, ne vieillissent jamais. Et chaque printemps, quand on fait référence à nos propres contrées, finalement l'arbre retrouve cette forme d'insolente jeunesse qui est toujours là et qui donne aussi cette particularité à l'arbre d'avoir un air vieux, chez des très vieux arbres, mais finalement d'avoir toujours cette jeunesse, cette
il
renaissance.
Est vieux, il est vieux et jeune à chaque fois, il peut renaître à chaque fois. Vous citiez même le philosophe grec Théophraste, le végétal n'a pas d'idée arrêtée. Très jolie formule que vous aviez proposée à un de nos invités, le philosophe Emanuele Coccia, philosophe et botaniste, que nous avions reçu à l'époque pour sa petite métaphysique des plantes. Vous lui aviez, Jacques Tassin, posé une question par notre intermédiaire hein, sur RFI. Je propose d'écouter sa réponse à votre question, qui était donc les végétaux ont une croissance infinie. Vous citiez le végétal n'a pas d'idée arrêtée. Écoutez la réaction d'Emmanuel Coccia sur notre antenne.
Ce que Théophraste disait, que Jacques Tassin répétait, c'est un des faits les plus incroyables de la vie végétale, c'est-à-dire la capacité à la fois de produire de l'indéterminé d'un point de vue cellulaire, c'est-à-dire de garder une espèce de strates et cellules souches qui peuvent aller dans une direction ou de l'autre, donc peuvent produire des fleurs, des feuilles en fonction des besoins et de la situation de l'environnement, mais qui est une adaptabilité non pas spirituelle comme dans les cas des larmes, une adaptabilité somatique, anatomique, donc de changer leur corps, de sculpter leur corps en fonction de ce qui se passe autour d'eux. Donc c'est une invention des formes perpétuelles et aussi une attention au monde qui est beaucoup plus radicale de celle qu'on peut se poser dans un homme qui est évidemment une capacité d'adaptation, mais qui n'arrive pas à modifier son propre corps à la situation du monde ambiant. Alors que dans les cas de plantes, c'est le cas aussi parce que, comme Jacques Tassin le disait, ce sont des êtres qui ne cessent jamais de s'accroître. En fait, tout être animal à un moment
arrête de grandir, hein.
Attente sa maturité, disons, et donc commence à se reproduire. Dans les cas de plantes, il n'y a pas de distinction entre reproduction et croissance, ce qui donc donne une vie qui est perpétuellement dans la façonnage de soi, de fait. Une plante, c'est une vie qui est constamment en train de façonner son propre corps. C'est une vie qui est entièrement le design de soi-même, en fait.
J'ai vu sourire, Jacques Tassin, à toutes ces réflexions d'Emmanuel Coccia.
Je rejoins tout à fait ce qu'il dit, ça me plaît beaucoup. Il y a effectivement cette capacité de la plante, qui est exacerbée chez l'arbre, à s'ajuster. Il y a beaucoup de souplesse dans l'arbre, il y a beaucoup de plasticité.
Oui, contrairement à son image.
Oui, totalement.
C'est plein de paradoxes.
C'est plein de paradoxes parce que nous ne savons pas voir les arbres, en réalité.
Nous ne savons pas leur porter attention comme eux savent porter... Enfin, porter attention à leur manière, à ce qui les entoure.
Tout à fait. Eux ont une capacité à s'ajuster, à percevoir le monde. Avec des limites, évidemment, mais et à s'ajuster à la diversité du monde, mais sous des formes très, très diverses, hein, aussi bien minérales que vivantes. Et nous, effectivement, nous n'avons pas du tout cette posture. On a plutôt tendance à voir le monde à notre image. Et nous continuons de le faire, même lorsque nous nous intéressons aux vivants et en particulier aux arbres.
On a tendance à l'anthropomorphisme, voilà. On a tendance à les comparer. D'ailleurs, c'est vrai que votre titre, Penser comme un arbre, Jacques Tassin.
Alors,
expliquez-nous un peu ce titre, parce qu'il peut amener...
Bien sûr, il peut prêter à confusion et qu'on peut me reprocher d'être moi-même anthropomorphique, ce que je ne veux surtout pas être. Penser comme un arbre, c'est d'abord inviter à se décentrer. Voilà. Il y a l'idée d'arrêter de penser le monde à notre image. Donc finalement, c'est faire un pas de côté, essayer de regarder le monde autrement et finalement, tel que l'arbre lui-même envisage ce monde. Et là où c'est intéressant, c'est quand on commence à analyser, comme je l'ai fait dans mon livre, cette manière, ces multiples manières qu'ont les arbres à être au monde, à, je ne vais pas dire dialoguer, mais à échanger malgré tout avec le monde.
Ils communiquent, les arbres. Enfin, alors, ils communiquent par leurs racines.
Voilà, alors on peut le mettre un peu entre guillemets aussi, parce que le terme...
C'est pas la
évidemment...
même communication que la nôtre.
Non. Mais effectivement, il y a ces formes d'échange qui sont sacrément intéressantes et qui peuvent nous inspirer. Et puis aussi, penser comme un arbre, c'est aussi penser à notre propre développement de nos sociétés humaines et s'inspirer finalement de tout cette manière qu'ont les arbres, bah finalement, à ne faire aucun déchet, à ne pas polluer, à être toujours dans la durabilité.
Au niveau énergétique, au niveau recyclage.
Voilà.
Alors, c'est pas un modèle, les arbres, mais c'est quoi? Une source d'inspiration pour nous?
Alors moi, j'aime pas trop le terme de modèle parce que. Bon, alors peut-être ai-je tort, mais je voudrais pas qu'on tombe dans des idéologies ou dans des fantasmagories qui finalement se révèlent des impasses. Mais je pense source d'inspiration. c'est de toute façon déjà le cas, comme nous le disions au début de cette émission. Et il y a vraiment matière à continuer lorsque l'on pense à la gestion de l'énergie. L'arbre sait stocker de l'énergie, sait transformer du carbone minéral en carbone organique, ce que nous ne savons pas encore faire, a résolu tout un tas de problèmes que nous posons nous-mêmes et que nous ne savons pas encore résoudre. Mais finalement, les solutions, elles sembleraient du côté des arbres. Il y a des gens qui s'y intéressent, hein, qui essaient de reproduire la photosynthèse. La photosynthèse, c'est extraordinaire. Ça serait pouvoir finalement fixer à la fois le carbone minéral en carbone organique et puis conserver de l'énergie. Ce que l'arbre sait très bien faire et ce qui pour nous serait vraiment... Alors si on savait faire ça, alors ça ne veut pas dire qu'il faudrait continuer à faire n'importe quoi, comme on a plutôt tendance à le faire actuellement.
Il faudrait continuer à s'inspirer des arbres et de leur sobriété aussi.
Tout à fait, tout à fait. Et il y a des, comment dire, bien des situations qui montrent que la végétation, dans les situations les plus sobres, contrairement à ce qu'on pense, s'exprime mieux que dans des situations où il y a de l'abondance. La forêt amazonienne, par exemple, on croit volontiers que ce sont des sols avec une fertilité extraordinaire pour avoir des arbres qui font 30-40 mètres de haut. En réalité, non, pas du tout. C'est le contraire. C'est là encore où il faut apprendre à voir les arbres. Tout nous trompe totalement. Et ces sols qui sont très lessivés avec toutes ces pluies qui tombent, qui parfois ont été cultivés quelques siècles plus tôt et sont redevenus en forêt, ces sols sont très très pauvres. Et la fertilité, en réalité, elle est dans les arbres. Les forêts amazoniennes sont parmi les formes de végétation les plus diverses au monde. Donc voilà, il y a un paradoxe vraiment saisissant, finalement, qui nous montre que la sobriété est non seulement intéressante pour nos propres modèles de développement...
Mais qu'elle peut être très fertile.
Et elle est très fertile, tout à fait.
Autour de la question, pourquoi penser comme un arbre ? Je propose d'écouter un autre amoureux des arbres que vous connaissez bien, le célèbre botaniste Francis Allais, qui vous inspire lui aussi.
Moi, ce que j'aime le plus, c'est les relations entre les arbres et les animaux, entre les plantes et les animaux, je dis. Un arbre qui attire un animal avec une odeur de fleurs qui le séduit, je trouve ça superbe. Ensuite, on n'a plus besoin de cet animal, mais quelques mois après, on va avoir besoin d'autres animaux, plus lourds, ceux-là, pour disperser les graines. Alors, ça peut être les éléphants, c'est très souvent les singes. Et l'animal, il pollinise ou il disperse les fruits, les graines, sans même s'en rendre compte.
Francis Allais sur les arbres, qui dessine tellement bien, qui nous expliquait comment finalement l'arbre a cette capacité de faire appel à d'autres êtres vivants pour obtenir tout ce qu'il manque.
Pour se prolonger finalement dans ce qui n'est pas lui-même. Il se trouve que dans mon travail d'écologue, ça a été longtemps mon premier centre d'intérêt, ce qu'on appelle l'ornithocorie, c'est-à-dire la dispersion des graines par les oiseaux. Et je me suis intéressé à cette capacité qu'ont les arbres, alors en forêt tropicale, c'est vrai pour 90% des arbres, voire plus, à tirer parti de primates ou d'oiseaux ou encore d'autres animaux, parfois des reptiles, pour disperser leurs graines. Et finalement, à tirer parti de cette mobilité qu'ils n'ont pas eux-mêmes.
Et oui,
c'est quand
parce
même
que
extraordinaire.
C'est extraordinaire parce que les arbres sont immobiles, mais en même temps, ils se font disperser. Ils ne sont pas si immobiles que ça, justement. Si immobiles que ça.
Non, ça c'est encore une fois, notre regard qui nous trompe. Enfin, quand je dis notre regard, c'est notre culture en réalité. C'est notre temporalité qui nous empêche de voir le regard, comme disait Emmanuel Ecoccia, sur ces arbres qui, en réalité, ne cessent de se mouvoir. Paul Claudel disait que l'arbre se confond avec son geste de croissance. Il est finalement dans une gestuelle qui ne s'arrête jamais. Parce que même en hiver, les racines continuent à croître. Il est toujours en mouvement, mais ce mouvement, il nous échappe parce qu'il ne correspond pas à notre propre perception.
Parce que ce n'est pas dans le même temps que le nôtre.
Voilà,
hein. Le temps de l'arbre n'est pas le même que le nôtre.
Et au bout du compte, ce qui est intéressant, c'est que le temps de l'arbre est un temps qui est en prise avec la réalité du monde, avec plusieurs temps du temps linéaire, des temps saisonniers, bien évidemment, le temps aussi des partenariats, donc des insectes, des animaux dont ils tirent profit. Donc une temporalité à la fois très complexe et très en prise avec la réalité du monde. Et finalement, quand on va dans son jardin et qu'on jardine, alors on retrouve plein de choses. On retrouve, la satisfaction de retrouver prise avec le végétal, mais on retrouve aussi le temps. Et on retrouve la capacité, peut-être, on pourrait le dire comme ça, même si moi ça ne me convient pas tout à fait de le dire comme cela, mais qu'on accepte de perdre un peu de temps, finalement, pour le retrouver. Pour retrouver, de perdre ce temps mécanique qu'on a en tête, pour retrouver du temps fondamental, ce que nous permettent les plantes. Moi, j'ai un jardin, je me régale chaque matin, chaque soir, à me promener et à voir comment ça change. Chaque jour. Et c'est ça aussi, cette capacité qu'ont les plantes, finalement, à nous ramener aux choses essentielles. Et je dis cela sans tomber dans des formes d'ésotérisme, en restant tout simplement sur les simples réalités, les réalités sensibles.
Quelle est la plante ou l'arbre que vous préférez, ou qui vous inspire le plus, plutôt, Jacques Tassin ?
Là, je suis un peu pris au dépourvu, parce que j'ai la faiblesse de penser que toutes les plantes me touchent, vraiment. Je pense qu'il suffit de s'arrêter un petit peu, d'abord de essayer de mettre fin à ces pensées incessantes qui nous occupent et qui prennent le dessus. Et puis finalement...
Se décentrer un peu, c'est ça.
Se décentrer, voilà, et aller du côté, se laisser aller du côté de ces plantes. Alors évidemment, comme tout le monde, les grands arbres, moi, me fascinent, parce que c'est une réussite extraordinaire. C'est une réussite du vivant pour avoir conquis ce milieu terrestre de manière... de manière totale.
D'avoir les racines très importantes qui s'enfoncent dans le sol, et puis le sommet qui touche le ciel.
Voilà, et qui touche le ciel, non seulement de manière peut-être un peu poétique, comme vous venez de le dire, mais aussi de manière réelle, puisque là, à nouveau, les chiffres sont extraordinaires. 99% de la masse vivante d'un arbre vient de l'atmosphère et de l'eau, qui vient aussi de l'atmosphère. Puisque sa masse vient de la photosynthèse, qui lui permet de synthétiser sa propre matière vivante. Cette photosynthèse tire en partie du gaz qui est présent dans l'atmosphère, et de la lumière et de l'eau qui tombe du ciel. Donc finalement, l'arbre s'enracine beaucoup plus dans le ciel que dans la terre. Là encore, notre regard nous trompe.
Pourtant, les racines, elles sont
là. Elles sont là,
elles sont là et elles sont importantes.
C'est sûr, mais ça, on les voit. Alors que la capacité des plantes à explorer l'atmosphère, ça nous est imperceptible. La photosynthèse nous est imperceptible.
Je propose de partir dans l'imperceptible et dans la canopée avec Paul Oenpan sur RFI.
Les pieds plantés dans
Nous vivions heureux dans la canopée avec Polo & Pan sur RFI. C'est même pas une nostalgie, c'est une réalité.
Non, c'est absolument. Finalement, on n'y échappe pas. On se rend compte. Et moi, j'aime beaucoup cette chanson que je ne connaissais pas. Finalement, quand on se laisse un tout petit peu aller, on retourne naturellement vers les arbres parce que les arbres sont notre berceau, nous apaisent, nous font du bien. Et pourquoi se l'interdire, évidemment?
Pourquoi se l'interdire? Pourquoi ne pas s'en rapprocher aujourd'hui? Nous sommes donc en votre compagnie. Jacques Tassin, vous êtes écologue, vous venez de publier « Penser comme un arbre » aux éditions Odile Jacob. Ouvrage où nous avons un exemplaire à vous faire gagner, amis auditeurs, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, Avis aux amateurs. Autour de la question « Pourquoi penser comme un arbre ?» et pourquoi cette question se repose aujourd'hui avec tant d'insistance dans le sillage de toutes les découvertes scientifiques, notamment sur la communication des végétaux. Pourquoi a-t-on besoin de se ressourcer auprès des arbres, de s'en rapprocher? Nouvelle question pour vous, Jacques Tassin, soulevée par Karine Nakache, auteur, qui était récemment notre invitée en compagnie de son mari, le neuroscientifique Lionel Nakache.
Moi, j'avais une question à vous poser sur la fascination qu'exercent les arbres tout particulièrement, les végétaux, mais les arbres tout particulièrement auprès de nous aujourd'hui. Et je me demandais si elles s'enracinaient, c'est le cas de le dire sans mauvais jeu de mots, dans l'attribut principal de l'arbre, à savoir son immobilité vivante. Et donc, je voulais savoir si, par effet de contraste, si on s'intéressait tant à l'intelligence des arbres, c'est parce qu'on a de plus en plus conscience qu'on est mobile et qu'on voudrait savoir si c'est possible d'être intelligent aussi en n'étant pas mobile.
Que pouvez-vous répondre? Qu'en pensez-vous, Jacques Tassin?
À nouveau, ça ne peut être que des hypothèses, évidemment, mais je pense que ce qui nous intéresse intensément dans les arbres actuellement, c'est bien cette figure de l'altérité dont parle Francis Allais. C'est le fait qu'on puisse être vivant et puis être une forme de triomphe. C'est ce que disait Michel Houellebecq à la fin de La carte et le territoire. Le triomphe végétal est total. Tout en étant très différent de nous. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est ça qui nous permet de nous
décentrer. C'est l'altérité d'autres formes de vie et d'autres formes d'intelligence. On peut parler d'une forme de en tout cas d'intelligence sensible, d'intelligence pour être en vie.
Voilà. Oui. D'autres formes d'ajustement au monde, d'autres formes d'être au monde, d'autres formes d'existence, et qui finalement peuvent aussi nous amener à relativiser les choses, comment dire, à ne rien jeter, mais à redonner un peu plus de place aux sensibles, puisque la connaissance, si on peut parler de connaissance, mais pourquoi pas, le terme me gêne pas trop, la connaissance qu'ont les plantes de leur environnement, c'est une connaissance sensible, qui est liée, comme Emmanuel Coccia le disait, finalement aux capacités de toutes leurs cellules. Nous avons des organes sensoriels. Finalement, nous ne sommes au monde que par une toute petite partie de nous-mêmes. Les plantes sont au monde par toutes leurs cellules, qui toutes sont capables, alors pour la partie aérienne, de détecter la lumière, et puis pour toutes les cellules, de détecter des vibrations, des intrusions d'autres présences, des gradients chimiques, etc. La gravité, nous ne l'apercevons que dans notre oreille interne.
Oui, parce qu'on a un peu de liquide qui nous permet de nous réajuster.
Avec des principes assez convergents d'ailleurs. Mais les plantes perçoivent la gravité finalement de manière beaucoup plus complète que nous. Notamment, on le sait, par les terminaisons racinaires, mais on ne s'aperçoit pas seulement. Quoi. Donc voilà, il y a cette capacité qu'ont les plantes et les arbres encore plus. En tant que forme exubérante des plantes, à être totalement au monde, à la fois dans leur manière d'être, mais aussi par le fait qu'elles sont au monde par toutes leurs cellules.
Vous parliez de la gravité, de la perception de la gravité par les arbres. Précisément, des chercheurs s'intéressent à cette question pour comprendre pourquoi et comment les arbres poussent droit, comment ressentent-ils la gravité, comment se réorientent-ils au niveau cellulaire pour toujours pousser à la verticale. C'est l'objet d'une étude qui a été menée par des chercheurs du CNRS et de l'INRA, comment les plantes ressentent la gravité. Je vous propose d'écouter la réponse d'Antoine Berruth, qui est post-doctorant à l'Institut de physique de Rennes et qui a coordonné cette étude, au micro de Charlie Dupiau.
Les biologistes savent depuis assez longtemps que c'est le mouvement de ces petites billes dans les cellules qui permet à la plante de connaître la direction de la gravité. Et en fait, la question qu'on s'est posée, c'est une question qui est justement spécifique à ce capteur-là, puisque si vous êtes déjà allé à la plage et que vous avez déjà joué avec du sable, vous êtes sûrement rendu compte que le sable, ça coule beaucoup moins bien, par exemple, qu'un liquide. Et malgré ça, les plantes répondent très bien aux petites inclinaisons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'incliner une plante de 90 degrés, ou même il n'y a pas besoin de la mettre tête en bas, pour qu'elle réponde à la gravité. En fait, les plantes sont capables de sentir des très petits angles, malgré le fait que leur capteur de gravité, au niveau cellulaire, est constitué de grains. Et donc nous, c'est sur cette question-là qu'on a travaillé. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des coupes de plantes, on a travaillé sur des germes de blé. On a regardé avec un microscope ce qui se passe donc, dans les cellules où il y a les petits grains qui s'appellent des statolithes. Et donc, la première chose qu'on voit, c'est que effectivement, quand on incline les plantes, les grains coulent très bien, ils coulent anormalement bien par rapport à ce qu'on attendrait pour des grains inertes comme du sable. Et si on zoome davantage, en fait, ce qu'on voit, c'est que les grains sont très agités. Et donc, l'hypothèse qu'on a faite, c'était que l'agitation dans la cellule permettait de fluidiser le tas de grains, lui permettait donc de couler facilement et de retourner toujours à l'horizontale, quel que soit l'angle d'inclinaison qu'on lui applique. C'est-à-dire que la plante, globalement, elle essaye de pousser en direction verticale vers le haut et ses racines en direction verticale plutôt vers le bas.
Jacques Tassin, les plantes, les arbres, leur manière de ressentir la gravité, voilà autant de questions qui intéressent les chercheurs aujourd'hui.
Oui, alors malheureusement, on peut regretter qu'il n'y ait pas assez d'équipes de chercheurs. Il y en a une très belle, celle-ci, effectivement, du CNRS et de l'INRA, qui est à Clermont-Ferrand, qui ont notamment mis en évidence aussi, ce qui n'est pas rien, loin de là, la faculté de proprioception, c'est-à-dire à se percevoir soi-même qu'ont les plantes.
Les plantes et les arbres se perçoivent elles-mêmes. Mais voilà. De quelle manière se perçoivent-elles?
Alors, ça, ils ne l'ont pas encore montré, mais en tout cas, ils l'ont révélé par simulation numérique, finalement, et par la mise en jeu de toutes les cellules.
C'est pareil, là encore, c'est vraiment la mise en jeu de toutes les cellules.
Oui,
c'est tout,
voilà,
tout l'être végétal qui ressent les choses et qui les vit. On n'a pas tellement parlé des racines de l'arbre.
Parce qu'elles sont moins connues.
Ouais, c'est ça.
Elles sont cachées, alors que pourtant elles représentent l'équivalent du volume et de la masse aérienne, voire un peu plus.
Il y en a autant, voire plus sous terre que sur terre.
Hein. Voilà. Et c'est tout aussi actif, voire davantage, puisque dans les zones tempérées comme ici, autant la partie aérienne est en torpeur, on va dire, pendant l'hiver, autant sous le sol, puisque la température reste quand même tolérable pour les mécanismes du vivant, les racines continuent à croître, à explorer le sol. Et ces racines, on sait malgré tout, de plus en plus, que ce sont aussi des interfaces avec le vivant. On revient toujours là-dessus, quoi. Cette capacité.
Avec d'autres organismes, voilà. Avec des champignons, avec des insectes, avec des.
C'est cela. Et essentiellement, je dirais, enfin, en tout cas d'un point de vue fonctionnel, avec des champignons souterrains qui leur permettent de multiplier par 10, voire par 100 leur potentiel d'exploration et d'accéder à des ressources nutritives auxquelles elles ne peuvent pas accéder elles-mêmes. Et il y a à nouveau cette faculté extraordinaire qu'ont les plantes, finalement, à tirer parti de fonctions qu'elles n'ont pas auprès d'autres organismes qui lui sont aussi différents que des animaux ou des champignons qui appartiennent aux deux autres règnes.
Trop fort, les arbres. Je vous écoute l'arbre d'Arthur H. avec Nicolas Repac sur RFI.
Mes cuisses nues embrassaient l'écorce lisse et humide. Mes sandales marchaient sur les branches. Tout en haut, mais encore sous les feuilles et à l'ombre de la chaleur, je me suis mise à cheval sur une fourche écartée en balançant mes pieds dans le vide. Il avait plu. Des gouttes d'eau tombaient et coulaient sous ma peau. Mes mains étaient tachées de mousse et mes orteils étaient rouges à cause de fleurs écrasées. Je sentais le bel arbre vivre quand le vent passait au travers. Alors, je serrais mes jambes davantage et j'appliquais mes lèvres ouvertes sur la nuque chevelue d'un rameau.
L'arbre d'Arthur H, un petit cadeau pour vous, Jacques Tassin, qui voulait faire revenir le sensible dans nos vies.
Oui, oui, pour tout vous avouer, je ne connaissais pas cette chanson, mais ça me rappelle le premier roman que j'avais écrit, qui s'appelait Forêt marronne, où il y a cette scène d'un esclave qui s'évade de sa plantation à l'île de la Réunion et qui retrouve ce contact aussi avec les arbres, ce contact vraiment premier. Alors moi, je n'avais pas la dimension érotique qu'il y a manifestement ici, mais c'était en tout cas un contact sensible intense.
Autour de la question, pourquoi les arbres nous inspirent-ils aujourd'hui? Nous sommes donc en votre compagnie, Jacques Tassin, et vous nous invitez à penser comme un arbre. Pourquoi tant de poètes, de chercheurs, d'artistes, de musiciens, d'écrivains et même d'auteurs de bandes dessinées se rebranchent ainsi aux arbres? C'est notamment le cas de Zep, le célèbre auteur de Titeuf. Zep a choisi une forêt comme décor de sa nouvelle bande dessinée The End, un thriller botanique autour d'un groupe de chercheurs qui étudie la communication des arbres, persuadés qu'ils détiennent les secrets de notre planète. C'est pas votre cas, Jacques Tassin, vous nous rassurez. Charlie Dupuis, en tout cas, a rencontré Zep. Elle lui a demandé de nous dessiner un arbre. On l'écoute.
Moi, j'adore dessiner les arbres, mais pendant des années, je les ai dessinés sans vraiment chercher à les connaître plus. Mais je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre du vivant, de plus grand que simplement un truc qui pousse et qui fait un décor au fond d'une image. J'étais face à un être vivant, un individu qui, si moi j'étais en train de le dessiner et de l'observer, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose du même ordre de la part de l'arbre. C'est difficile de dire que l'arbre était en train de m'observer, mais en tout cas qu'il y avait un échange, que les deux étaient conscients de la présence de l'un et de l'autre.
Alors pour cette BD, The End, vous êtes allé dans une forêt près de Stockholm pour observer les arbres pendant une semaine, c'est ça? Et alors c'est facile à dessiner un arbre? Ou une forêt plutôt?
C'est sans fin en fait, parce que j'ai l'impression que je pourrais redessiner. Devant chez moi, j'ai des platanes, par exemple, j'adore dessiner les platanes, mais j'ai l'impression que ça fait 40 ans que je dessine des platanes, mais je serais toujours incapable d'en dessiner un comme ça, je suis obligé de l'observer pour le dessiner. Mais c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est cet échange, c'est d'être en train de l'observer, parce que j'ai l'impression qu'au-delà du dessin, je suis en train d'apprendre quelque chose sur notre vie sur Terre, à regarder comme ça, disons de manière un peu appuyée un arbre.
Et qu'est-ce que vous apprenez alors sur nous?
Qu'on n'est pas les maîtres de la Terre, qu'il y a d'autres espèces qui étaient là avant nous, et notamment celles des végétaux, et qui sont peut-être eux les maîtres de la Terre. On peut imaginer que s'ils sont là depuis 350 millions d'années sur Terre, on a des choses à apprendre. Parce qu'eux n'ont pas détruit le biotope pendant qu'ils étaient là, au contraire. Mais parce que, justement, leur organisation et leur intelligence dépassent de loin notre organisation humaine. Il n'y a même pas besoin d'être philosophe pour dire ça. N'importe qui va vous dire, quand je vais me promener en forêt, je me sens mieux. Simplement, le fait d'être rattaché à quelque chose comme ça, qui est plus grand, plus vieux que nous, c'est vachement rassurant, c'est vachement rassénérant, on se sent mieux.
Est-ce que vous, le fait de les dessiner, donc de les observer, ça vous aide à vous connecter, comme vous dites, aux arbres?
Je me connecte aussi à un rythme plus végétal, c'est-à-dire que je m'arrête et je suis moi-même, je deviens une espèce de plante verte parce que je ne bouge pas pendant une demi-heure, une heure. C'est rare qu'on s'arrête et qu'on écoute la nature.
Est-ce qu'il vous reste des questions sur les arbres que vous aimeriez poser à notre invité Jacques Tassin, que vous connaissez?
J'aimerais en poser des milliers, hein, forcément, mais on n'a pas le temps. Mais disons que moi, je n'ai pas un savoir là-dedans. J'ai puisé dans le savoir des autres, mais ce que j'aime, c'est la fiction. Et je me dis que si on était une histoire de fiction, où tout à coup, imaginons qu'on réévalue justement notre place sur Terre et qu'on décide de recréer un pacte avec les autres espèces qui sont là. Si Jacques Tassin était l'envoyé des hommes et qu'il allait s'adresser aux arbres, qu'est-ce qu'il leur dirait ?
Qu'est-ce que vous leur diriez aux arbres, Jacques Tassin ?
Bon. Alors là, on reste dans, c'est un exercice de fiction, de pure fiction.
Complètement, dans l'imaginaire, voilà, dans le sensible et l'imaginaire.
Voilà. Donc, chers amis arbres qui écoutaient cette émission, c'est ça ?
C'est ça, exactement, avec vos oreilles d'arbre.
Donc, je vous demande un petit sursis supplémentaire. Bon, un petit siècle peut-être, puisqu'il se passe tellement de choses actuellement, où c'est vrai qu'on a fait un peu n'importe quoi, enfin plus qu'un peu. On a pensé que nous étions au centre, finalement, de tout. De tout. Depuis quelques années seulement, on change de posture. Et finalement, chers amis arbres, observez cela. Et laissez-nous un peu de temps, finalement, pour continuer ce cheminement. Et finalement, apprendre à mieux tirer parti de vos propres connaissances sensibles, apprendre à finalement à mieux être au monde, comme vous le faites si bien. Et puis, en échange, parce qu'il faut bien qu'il y ait une contrepartie, ben on fera plus attention à vous, parce qu'on découvrira aussi davantage qu'on a besoin de vous, non seulement pour notre être, personnel, intime, mais aussi parce que la Terre a besoin de vous et qu'on ne peut pas vivre sur une Terre qui ne fonctionnerait pas.
Il est temps de retrouver les arbres, c'est ça que vous leur dites aux arbres.
Tout
il est
à
temps
fait,
de...
et on va se faire ce chemin, on s'est éloigné. Voilà. Nous vous avons quitté depuis 300 000 ans à peu près. Maintenant, nous sommes en train de faire le chemin inverse. Bon, il va prendre un petit peu de temps, mais ce qu'on vous demande, c'est de nous accueillir avec bienveillance et on prendra soin de vous. On continuera à disperser vos graines, d'ailleurs, comme on le fait aussi très bien. Et on a aussi beaucoup... Finalement, on a une alliance qui a déjà été trouvée, comme par exemple, vous vous souvenez très bien quand même de cette histoire du bocage qui vous mariait si bien aux arbres. Et on peut continuer à trouver via l'agroforesterie, donc qui est dans cette mouvance, via d'autres choses, finalement, continuer à tirer parti, mais de manière bienveillante, de vous. Et puis, on va continuer
à
vivre ensemble et à faire un chemin ensemble.
À faire un chemin ensemble sur la planète des arbres. Rappelons-le, Jacques Tassin. Merci infiniment de nous rappeler aux arbres. Pensez comme un arbre, c'est le titre de votre essai qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Et je vous rappelle, amis auditeurs, qui n'êtes pas que des arbres, que nous avons encore un exemplaire de ce très inspirant essai à vous faire gagner si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook. Merci Jacques Tassin et vous
Merci
revenez
beaucoup.
Quand vous voulez.
Merci à vous.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain pour notre table ronde mensuelle avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique. Autour de la question, comment la science infuse et se diffuse, avec Apolline Vernon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, portez-vous bien. Amis auditeurs, surtout restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Dans quelques instants, dans une minute, ce sera l'heure d'un nouveau journal sur RFI. Thank you.